de mettre la première main à notre projet d'église. Il s'agit de la parabole des outres, des vieilles outres et des outres neuves, du vin vieux et du vin nouveau. Et en faisant des recherches dans mes archives, pour savoir où est-ce qu'on en était à ce moment-là quand on avait évoqué ce projet, où en était notre projet immobilier, j'ai découvert, tenez-vous bien, que le lendemain, le lundi, c'est ce jour-là qu'on a pris rendez-vous avec Monsieur Moll pour la première fois et que nous avons visité le local le mercredi. Donc, il y a 3 ans, c'était au mois de décembre. Et donc, on a aujourd'hui l'occasion de voir où on en est par rapport à cette parabole, ce qui s'est passé en presque 3 ans, qui puisse être mis en regard de ce texte et ce qui nous apprend encore aujourd'hui, alors que notre projet d'église est bien engagé et que, comme l'a dit Michael, nous sommes à la veille des travaux dans le nouveau bâtiment. Son récit nous est rapporté dans les 3 évangiles, dans 3 évangiles. Et c'est celui qui se trouve dans l'évangile de Luc que j'ai choisi, car il nous apporte un détail supplémentaire. Et donc, nous allons le lire dans l'évangile de Luc. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Sinon, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit le vieux meilleur. Là, c'est la parabole dans son intégralité. Mais ce matin, je voudrais que nous nous concentrions plutôt sur la deuxième image de la parabole. Cette image est très parlante pour les contemporains de Jésus. Il y a question d'outre à vin, très utilisée à cette époque et très pratique à transporter à dos d'âne, de chameau ou entassé sur des charrettes. J'ai fait une petite recherche sur Internet pour essayer de glaner quelques images qui sont pas forcément très, très, très nettes, mais voilà, qui peuvent nous donner quelques idées de ce que sont ces outres. Les outres en peau, hein, dans notre cas particulier. Vous voyez ici, par exemple, une image d'une outre hein, qui est posée, on ne voit pas bien ce que c'est, peut-être un camion, une charrette, je ne sais pas, hein, suspendue comme ceci. Ici, une outre, on voit vraiment une outre en peau hein, sur un véhicule. Là, une outre de grande taille, apparemment, hein, suspendue après quelque chose. Voilà, quelque chose qui nous donne une idée de ce que sont ces outres. Et on voit ici une illustration d'un personnage en train d'en transporter une comme ça sur son dos. Alors, on est intéressé à la manière avec. Bien ça. Je suis intéressé à la manière par laquelle ces outres sont fabriquées. Comme on le disait, elles sont faites à partir de peaux, la plupart du temps de peaux de chèvre, aussi de brebis, de moutons, de veaux, suivant le volume de l'outre qu'on veut obtenir. Et alors, on veille à faire une coupure très nette hein, au niveau du cou, juste sous la tête, pour que le cou constitue un goulot. Selon les cultures, on va ou non éventrer la bête au niveau du ventre, évidemment puisque c'est éventré, avant de la vider. Et sachant que si on l'éventre, si on prend le mode opératoire de l'éventrer, ça va nécessiter d'avoir recours à une couture hein, de grande longueur qui va demander beaucoup de technicité, beaucoup de soins pour obtenir l'étanchéité. Si on n'éventre pas la bête, ça va être assez sportif. Hein, il va falloir retourner la peau par le cou, comme ceci, hein, imaginez, pour faire apparaître l'intérieur comme ça par le cou, le vider et la nettoyer de toute trace de chair, après avoir bien sûr coupé les pattes. Elle sera mise à sécher au soleil plusieurs mois, afin que tout résidu de chair soit vraiment éliminé. et que, bien sûr, on ne vienne pas polluer ainsi le vin. Il sera trempé à plusieurs reprises dans de l'eau pour lui donner de la souplesse, de l'élasticité. Enfin, les bases des pâtes vont être coupées, obturées. Tous les orifices seront cousus pour la rendre hermétique. Généralement, le coup va servir de goulot pour verser le vin, comme ceci. On va y adapter un système de bouchon, tel qu'on le voit ici, en corne ou en bois. Entre nous, je trouve que c'est un mode de conservation du vin qui est bien meilleur que dans la bouteille, puisque, en tout cas dans la bouteille entamée, puisqu'une fois entamée, l'outre ne contient que très peu d'air. On a, en quelque sorte, une sorte de bag-in-box avant l'heure, qui se vide sans qu'il y ait d'air qui rentre à l'intérieur. C'est un deuil intéressant entre l'ancien et le moderne, intéressant dans notre réflexion. Pour le stockage ou le transport, la souplesse des outres permet de perdre très peu de place. Elles se calent les unes entre les autres, il y a très peu d'interstices. C'est vraiment un mode de transport, de stockage qui a un très bon rendement. Et au cours de sa vie, l'outre va subir plusieurs cycles de remplissage, vidage, lavage et trempage. Et ces cycles nécessaires, mais conjugués, répétés au cours du, vont causer un vieillissement naturel de la peau qui vont progressivement altérer sa résistance et son élasticité au point qu'un beau jour, elle ne sera plus en mesure de supporter la pression provoquée par la fermentation du vin nouveau. Elle conviendra encore bien pour du vin vieux qui a cessé de fermenter, mais il faudra constamment de nouvelles outres pour contenir le vin nouveau, sinon toutes les vendanges seront perdues. Et Jésus met en avant dans notre texte, on l'a vu, que non seulement le vin est perdu, mais les vieilles outres également, qui ont nécessité tant de travail. Il y avait des métiers qui fabriquaient ces outres et qui auraient pu, donc ces outres qui ont nécessité tant de travail et qui auraient pu contenir encore quelque temps le vin vieux. Cette parabole nous dit que le neuf ne peut pas être contenu dans le vieux, qu'il a besoin de plus d'espace. Il en est de même pour nous. Un enfant n'arrive pas à tenir assis sur une chaise aussi longtemps que le font les adultes, par exemple lors des longs repas de famille. Bouger est nécessaire au développement de l'enfant. Et il paraît, par exemple, que c'est au cours de leur jeu que les jeunes lionceaux apprennent à développer leurs réflexes et leurs aptitudes à la chasse. Pour avoir un lion adulte et en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, il faut en passer par là, un jeune lionceau remuant. La deuxième partie de la parabole est un petit peu moins claire. Personne, au dire de Jésus, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon. Le vieux est meilleur. » Peut-être qu'il nous manque là le ton et la gestuelle qui accompagnent cette phrase de Jésus qui nous aiderait à la comprendre. Car dans notre texte, qui dit « Le vieux est bon » ? Que c'est Jésus ? Non. Il nous dit que c'est personne, et donc c'est celui qui ne veut pas du vin nouveau. Et très probablement, c'est un regret que Jésus exprime ici. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. C'est peut-être ça, ce ton, cette gestuelle qui accompagnerait cette parole de Jésus, ou tout au moins dans notre culture. Même s'il existe de très bons vins à boire jeunes, les amateurs préfèrent en très grande majorité des vins qui ont vieilli quelques années. L'image que Jésus prend n'a pas vocation à établir un jugement de valeur entre le vin jeune et le vin vieux. Il est bien évident que si nous voulons avoir du bon vin vieux dans quelques années, il va nous falloir dès maintenant préparer le vin jeune et le verser dans des outres neuves. Car sinon, nous n'aurons rien du tout, ni jeune ni vieux. N'oublions pas que ce qui est vieux aujourd'hui, ce que nous apprécions maintenant, a été un jour jeune et a nécessité du travail et de la maturation. Que ce que nous trouvons bon et dans la norme de ce qu'on peut attendre aujourd'hui a subi à ses débuts le processus de la fermentation, cette espèce d'ébullition désordonnée, à la fois prometteuse et inquiétante, porteuse d'espérance et de crainte de l'inconnu. On peut m'empêcher de faire un parallèle avec notre création qui a été tumultueuse à ses débuts, si violente même qu'on peut être admiratif en l'admirant depuis notre siècle sur le dessein de Dieu, le dessein qu'il avait pour elle déjà alors que ne semblait régner que le chaos. Qu'est-ce que nous voulons ? Tout dans son contexte, aussi bien que avant, dans notre passage, ce qui se passe avant, aussi bien que ce qui se passe après, nous montre que les Juifs contemporains de Jésus sont confrontés à un choix. Quelques versets avant, des interrogations qui montrent leur étonnement face au comportement de Jésus à l'égard des pécheurs. Quelques versets après, leur désapprobation. Et pour finir, l'accusation de ne pas obéir à la loi de Moïse. Et entre les deux, ici, Jésus qui leur dit « Vous avez eu la loi, moi je vous apporte la grâce. Et je vous préviens, vous ne pourrez pas mélanger les deux. Vous ne pourrez pas ménager la chèvre et le chou. Si vous voulez continuer à vivre sous la loi, vous ne bénéficierez pas de la grâce. Si vous vivez par la grâce, vous aurez à remettre en question pas mal de choses qui sont devenues une partie de vous-même au fil des siècles. Qu'est-ce que vous choisissez ? » Et la conclusion de Jésus fait un peu écho à la parole de Jean. Les siens ne l'ont pas reçu. Pour la grande majorité, ils ont choisi de rester dans ce qu'ils connaissaient. Ils ont dit, nous, on préfère le vin. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Je disais que Jésus n'établit pas de jugement de valeur entre le vin vieux et le vin nouveau. Alors, oui et non. La loi était juste et sainte, comme nous le fait remarquer Paul. Et Jésus nous dit bien qu'il n'a pas aboli la loi en tant que telle et qu'elle demeure comme pilier de sainteté et de justice. Mais personne n'est jamais parvenu à la vie éternelle par la seule observance de cette loi et de ses commandements, précisément parce qu'elle est tellement sainte, des commandements tellement justes et bons qu'ils ne font que mettre en évidence nos manquements et notre injustice. La grâce que Jésus nous apporte lui est supérieure, en ce sens qu'elle nous ouvre la porte que la loi nous avait fermée, la porte de la vie éternelle. Et quand on sait ce qu'il en coûte, à Jésus de nous faire bénéficier de cette grâce, je crois qu'on peut bien comprendre son regret que la plupart préfèrent encore en rester au vin vieux de la loi plutôt que d'investir dans cette grâce bouillonnante et pétillante, porteuse d'espérance, en un vin excellent. Lorsqu'on aborde cette question du nouveau et de l'ancien, peut très vite basculer dans la confrontation entre les anciens et les modernes, les jeunes et les vieux, les modernistes et les traditionalistes, entre progressistes et conservateurs. Et vous avez ainsi d'un côté ceux qui privilégient la préservation de la société dans la perpétuation de ses institutions, et d'un autre côté ceux qui veulent changer la société par précisément la remise en cause de ses institutions. En matière chrétienne, on peut très facilement basculer dans ce même mode de confrontation et justifier même bibliquement un positionnement dans un sens ou dans l'autre. Les uns s'en référant à des passages comme on en trouve dans les Proverbes, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tandis que les autres, à l'opposé, s'approprieront des passages qui parlent de renouvellement, de cœur nouveau, d'esprit nouveau comme on en trouve dans les livres prophétiques. Il faut bien reconnaître que les deux choses cohabitent dans la Bible et même dans l'Ancien Testament, qui est le creuset de la loi. D'un côté, la sagesse et la connaissance de Dieu, transmises par ceux qui nous ont précédés. D'un autre côté, le besoin régulier de remettre les choses à plat pour un nouveau départ. Je crois qu'il ne serait pas sain d'opposer les deux, mais il y a des moments charnières où les choses changent, ou même les temps changent, et il faut savoir prendre le virage. Avec Jésus, nous avons changé de temps, et nous l'avons dit, la loi a fait place à la grâce. Avec la grâce est venu le temps de l'Église. Vous connaissez son histoire, très localisée, tout d'abord en Judée, à Jérusalem, à l'endroit même où la loi avait son siège central. Convoqués devant le Sanhédrin pour le faire taire, Pierre et Jean, qui ont vécu avec Jésus, disent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Très rapidement, l'Église s'est étendue tout autour de la Palestine, en Syrie, dans l'actuelle Turquie, en Grèce, puis à Rome. Tout au long de ce développement, de nombreuses tentatives ont été faites pour mettre le vin nouveau dans les outres de la loi. Pour mettre la grâce dans les vieilles outres de la loi. De raccommoder ensemble la loi juive, la foi chrétienne, mais ça n'a pas tenu. Et l'Église a poursuivi son essor au cours des siècles. Elle a traversé toutes sortes de périodes, des plus lumineuses aux plus sombres. Il lui a fallu à de nombreuses reprises se remettre en question. Et chaque fois, c'était bien souvent une confrontation entre les tenants de la continuité et ceux de la réformation. Parfois, sous l'influence de passions exacerbées, il y a eu des abus de toutes sortes. Il y a eu des périodes où c'était compliqué, même dangereux, de mener la vie d'un croyant authentique au sein même de l'Église. Et on retrouve souvent, ça et là, une régénérescence de foi, de ferveur profonde, qui se sont développées au sein même des églises, qui sont parties du cœur des églises, et qui ont produit des réveils de toutes sortes, dans toutes sortes de sociétés. Il y a des moments où les chrétiens se sont rassemblés et unis pour dire « Nous ne pouvons pas rester entre nous et ne pas partager ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas faire connaître aux hommes de Jésus qui nous est si cher. » Ils ont trouvé des nouvelles méthodes pour parler à leurs contemporains parce qu'ils voyaient bien que leurs vieux habits usés se déchiraient au contact d'un monde devenu trop extérieur, d'un monde qu'ils avaient trop longtemps déserté pour s'en protéger. Ils se sont fait de nouvelles outres. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que les outres anciennes étaient mauvaises. Au contraire, elles ont pleinement rempli leur rôle en leur temps. Et le vin nouveau, on l'a dit, le vin vieux a été nouveau à un moment. Mais à terme, nos vieilles outres sont condamnées, et plutôt encore que nous le croyons, si nous les remplissons de vin nouveau. Là, comme nous dit Jésus, on perd tout, le vin et les outres. On peut regretter de la part des hommes qui n'ont pas de considération, qui n'ont de considération que pour le vin vieux. C'est le manque de vision en un processus perpétuel renouvellement, parce que le vin vieux est merveilleux, mais il n'a d'autre avenir que d'être bu rapidement. Heureusement, nous avons des vignerons qui pensent à mettre, à fermenter du vin nouveau, qui sera bon à boire demain. Pour cela, il nous faut de nouvelles outres pour contenir toute cette effervescence qui ne manquera pas de se produire vendangeons. Et à partir de la vidange, de la vendange, c'est un très long processus qui s'enclenche. Le raisin est tout d'abord lavé, puis pressé. Son jus est versé dans des cuves. Aujourd'hui, je parle de la méthode traditionnelle d'aujourd'hui, et dans des outres, bien sûr, à l'époque. C'est dans ces cuves que vient ensuite la vinification. C'est là que se produit la fermentation, celle qui met les outres à l'épreuve. Vous avez ensuite l'élevage, au cours duquel le vin va se purifier, se transformer, mûrir, affiner son caractère. L'assemblage ensuite est la phase suivante, qui va combiner les différents cépages entre eux. On va rassembler, les combiner, quelque chose qui vraiment dépend du savoir-faire du vigneron, en un assemblage complet et harmonieux. Et enfin, la mise en bouteille, dans laquelle le processus de vieillissement se poursuit jusqu'à ce fameux bon vin vieux. Peut-être pas nécessaire, en tout cas pour les habitués de notre Église, de faire un dessin avez compris où je veux en venir. C'est un processus qui ressemble beaucoup à celui que nous avons défini pour notre projet d'église. Et de la vigne à la bouteille, ce sont nos cercles hein, qui apparaissent. Voilà, bon, devait apparaître ici l'image de nos cercles en surimpression sur les bouteilles, la flèche représentant le passage du cercle extérieur vers le cercle intérieur. Qu'est-ce que toutes ces considérations sur les outres et la production du vin nous inspirent? Tout d'abord, nous avons fait un choix. Et vraiment, c'était un choix de rupture. En matière de marché du vin, vous avez dû entendre parler de termes de producteur, de termes de négociant. Sur les étiquettes, c'est marqué, hein, producteur ou négociant. Comme son nom l'indique, le producteur, c'est celui qui se charge de tout le processus que nous venons de décrire. Auparavant, dans notre culture d'église, nous étions plutôt des négociants. Tu me donnes une bouteille de ceci, tu me donnes une bouteille de cela, on échange des lots. Notre croissance allait au gré des arrivées, des départs de croyants dans la région, des allées-venues entre églises. Mais depuis 3 ans, nous avons engagé une importante mutation, une véritable rupture en décidant de devenir producteurs de disciples. Producteurs de vin nouveau, producteurs de disciples. Et depuis 3 ans, nous avons acheté aussi une outre, beaucoup plus grande, le 106, pour contenir tous ces disciples que nous allions produire. Plus grande, plus adaptée, résistante, plus souple aussi que ce 64 vieillissant qui nous a rendu de faire service, mais qui n'en peut plus de subir le bouillonnement que lui imposent nos choix. Un contenant adapté au contenu. Alors, inévitablement, va se poser la question de la taille de contenu que nous visons maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faudrait quand même que tant d'efforts, en énergie, en finances, en temps passé, en travaux, ça en vaille la peine. Il faudrait quand même qu'il y ait, entre aujourd'hui et demain, un différentiel tel que nous n'ayons pas à nous remettre au travail à peine installé. Si le vin nouveau est un vin plein de promesses, il faut alors que le contenant soit adapté non au contenu tel qu'il se présente au moment où nous le transvasons, mais aux promesses que nous formons sur ce contenu. Et c'est donc un contenant adapté aux promesses du contenu. Et quelles sont ces promesses? Elles sont écrites ici, sur le marque-page que vous avez reçu la semaine dernière. Mais le processus d'élaboration ne va pas mettre seulement nos locaux à l'épreuve et les efforts que nous consentirons pour eux. Notre culture d'église aussi devra s'adapter et prendre en compte les promesses que nous formons pour les futurs disciples, même si on a parfois aujourd'hui encore du mal à les appréhender. Nous ne pouvons pas demander à Dieu du neuf tout en conservant nos habitudes. Nous ne pouvons pas espérer qu'il change les choses sans avoir à nous changer nous. Parce qu'au fond, ce qui change, c'est pas tant le vin. Bien sûr, on observe une évolution, on en a parlé, de la vigne à la bouteille, c'est évident, mais il ne fait que suivre un cycle immuable qui se reproduit à chaque fois qu'on remet le processus en route, année après année. Ce qui est appelé à changer, pour accompagner ce cycle, ce sont les outres. Et les outres, c'est nous. Un autre constat. C'est le vin qui met les outres à l'épreuve, et non l'inverse. C'est le contenu qui met le contenant sous pression. Et la plus belle preuve, hein, vous prenez une bouteille de champagne, vous l'ouvrez, poum, la pression qui était contenue à l'intérieur s'échappe. Vous la refermez, revenez une heure plus tard, poum, vous l'ouvrez, de nouveau de la pression s'échappe. Vous pouvez faire ça pas mal de fois avant que ça s'arrête. Et entre deux ouvertures, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, vous n'avez rien rajouté, vous n'avez pas rétréci la bouteille, mais le contenu a mis la bouteille sous pression. C'est le contenu qui met le contenant sous pression, c'est le tissu neuf qui déchire le tissu vieux. Nous avons lu, il faut l'accepter. La vendange qui est versée dans le pressoir est bourrée de toutes les impuretés que la nature a en rayon et qu'il vaudrait mieux ne pas voir d'ailleurs. On pense à la terre, aux insectes, des déjections d'oiseaux, des bactéries, des maladies, des anomalies génétiques et de nos jours tous les produits chimiques que les viticulteurs y déversent. Elle va être lavée avant de passer dans le pressoir, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les traces de toute sa vie antérieure, de sa vie d'avant la vendange subsisteront. Pire encore, c'est par certaines d'entre elles, certaines de ces scories, que se déclenchera le processus de fermentation. Alors oui, on peut décider de stériliser tout ça, et là, risque zéro. Mais à l'arrivée, ce qu'on obtiendra, c'est seulement du jus de raisin. Ou un de ces vins morts, hein, qui ont été bloqués à un moment du processus et qui n'évoluent plus, ni pour se dégrader, ni pour s'améliorer, qu'on retrouve identiques à eux-mêmes pendant des années. Le choix que nous avons fait en Église nous mettra sous pression. Et ça a d'ailleurs déjà commencé. Quel ministère dans l'Église pour les femmes? Quelle approche pastorale du couple, et avec une notion de couple qui n'est plus du tout la même que celle qui avait cours dans notre société il y a seulement 30 ans? Nul doute que la fermentation a déjà commencé. Rappelons-nous aussi que la fermentation se fait à notre insu. Il suffit de mettre le vin nouveau dans l'autre, fermer le bouchon, et ça démarre. La fermentation qui se produit ensuite est un vrai cadeau du Seigneur. L'autre dans laquelle on met le vin vieux a vocation à contenir le vin durant la phase de stockage, lors des transports. Durant ces opérations, les agressions qu'elle subit viennent de l'extérieur. Donc je parle de les outres qui contiennent le vin vieux, celles qui sont les vieilles outres. Les agressions qui viennent de l'extérieur sont les secousses. On a vu l'outre attachée sur une charrette ou un camion. La perforation, hein, par des objets pointus. La lumière. Le vin nouveau, au contraire, va mettre les parois, les coutures de l'outre à l'épreuve de l'intérieur. De manière soutenue, durable. La pression est énorme. Et j'ai ici une image d'une outre. Je ne pense pas qu'elle est remplie de liquide, hein, vu quand même sa taille. Elle doit être remplie d'air, très probablement, mais c'est une idée de ce que ça peut donner. Chose qui est vraiment gonflée par une pression intérieure. Je suis désolé, je n'ai rien trouvé d'autre qu'une autre à partir de porc. C'était certainement pas ce qu'on trouvait à l'époque chez Jésus dans le monde juif, mais bon, voilà. Un vin vieux pourrait se contenter d'une outre de moindre qualité. Le vin nouveau, non. Nous avions plutôt l'habitude d'avoir à résister à la pression venue de l'extérieur et d'avoir un intérieur relativement protégé. Désormais, le défi sera de résister à la pression intérieure. Et l'exigence sur nous-mêmes n'en sera que plus grande. Il n'est pas question... Pas question d'ouvrir le bouchon un peu pour faire retomber la pression, parce que là, c'est tout le processus de fermentation qui est compromis. Il faudra tenir, résister, contenir cette pression intérieure, non pour la combattre, mais en alliant souplesse et résistance pour l'accompagner vers le bon vin qui ravira nos papilles. Donc une outre sous pression, oui, et éventrée, non. Il n'est pas question que les parois de l'outre cèdent, et cesse de matérialiser la limite entre le royaume de Dieu et le monde, faire court entre les notions de bien et de mal, hein, mais sans pour autant dire que tout est bien dans l'Église et tout est mal dans le monde. Nous acceptons le processus de la fermentation qui vient en partie des vieilles scories encore actives dans le raisin, même s'il a été lavé. Et c'est la même chose pour chacun de nous, à quelque stade que nous en soyons. Mais nous ne renonçons pas, pas plus que pour nous-mêmes, à engager ce vin en devenir dans les étapes suivantes. Et les étapes suivantes, on les a évoquées tout à l'heure pour le raisin, donc elles ont leur parallèle pour les disciples. L'élevage, au cours duquel il va se purifier, se transformer, s'ouvrir à une nouvelle vie, à de nouvelles valeurs, l'école, de l'Église. L'assemblage, qui va faire de lui un membre complémentaire et utile, un ensemble complet et harmonieux. La mise en bouteille, qui peut symboliser la case, le créneau, dans lequel il va s'engager, poursuivre son évolution vers le fameux bon vin vieux qui réjouit son Seigneur et qui fait du bien aux autres. À travers cette parabole, Jésus nous pose une question. Que voulez-vous ? Faire du neuf avec du vieux ? Les autres ne tiendront pas. Elles sont comme une monnaie ancienne qui n'a plus cours, elles ont été utiles et représentent une vraie valeur en soi pour qui sait les reconnaître, mais personne ne vous donnera en échange ne serait-ce qu'une baguette de pain. Et à travers cette parabole, Jésus nous interroge sur ce que nous voulons. Il nous fait aussi clairement comprendre qu'il aimerait, lui, que nous choisissions. Que nous nous décidions à remplir nos outres de vin nouveau. Et il nous indique comment nous y prendre. Pour un vin nouveau, utilisez de nouvelles outres. Changez tout, remettez tout à plat. Jésus s'est montré consterné de voir les Juifs de son temps littéralement stériliser la loi. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas de mots assez durs envers eux pour les condamner. Alors est-ce que ce serait tout de même pas un comble si nous, chrétiens, nous nous mettions à stériliser la grâce ? La fermentation, on l'a dit, elle peut inquiéter, ça bouillonne, il y a des bulles. Tout ça, c'est assez inquiétant, des bulles qui remontent à la surface, la pression. On a du mal à imaginer qu'il puisse en sortir quelque chose de bon. Et contre toute attente, ce qui en ressort se bonifie avec le temps. Mettons donc la grâce à fermenter. Demandons à Dieu de nous révéler ses nouvelles stratégies pour notre temps, de nous révéler ou même de nous donner des outres neuves qu'il convient d'employer aujourd'hui pour le vin que nous mettons à fermenter aujourd'hui. Nous avons confiance en celui qui a fixé les règles qui régissent le processus. Oui, le processus est long, il mettra nos structures à l'épreuve, mais ces règles sont relativement simples, bien connues, et l'essentiel des transformations se déclenche d'elles-mêmes pour aboutir à notre insu, pour notre plus grande joie, à quelque chose de très merveilleux.